On respire, on prend une bonne bouffée de nature. La nature, elle nous manque. On ouvre ses oreilles alors. C'est Alain Thomas, l'un des bénévoles et naturalistes de Bretagne Vivante, qui nous emmène au jardin pour mieux écouter et observer.
Que peut-on observer et surtout que peut-on entendre ? Bah, je crois que des milliers de gens font l'expérience aujourd'hui de la redécouverte, notamment des chants d'oiseaux, les bruits du trafic routier, du trafic aérien, on se sent évanouis et là, tout d'un coup, on entend des oiseaux qui chantent dès la fin de nuit, tôt le matin. Dès qu'il y a une embellie, ça redémarre. Et ça tombe bien puisque en plus ce confinement correspond à pratiquement, on va parler de pic, non pas le pic du coronavirus, mais le pic des manifestations sonores des oiseaux, hein, qui généralement démarrent fin février, courant mars, et vraiment avril jusqu'à début mai, c'est là où il y a des joutes sonores particulièrement intenses entre les mâles. Puisque quasiment systématiquement, ces chants sont émis par des oiseaux mâles.
Donc là, vous parlez plutôt des oiseaux terrestres, hein, plutôt que des oiseaux marins, je suppose.
Oui, alors évidemment, plutôt les oiseaux terrestres, mais même chez des oiseaux marins qui séjournent déjà depuis un bon moment largement en ville, comme et dans certaines villes, comme les goélands argentés, les goélands bruns, qui ont pris possession des toits de beaucoup de maisons et de bâtiments dans des villes portuaires. Même en général, les chants, les cris, mais pourtant ce sont aussi à certains moments des chants, et sont essentiellement émis par les mâles.
Et donc ce sont des oiseaux qui sont là de toute façon. Enfin, c'est pas parce que en fait les humains sont confinés chez eux que ces oiseaux ne sont venus spécialement en fait. Ils sont là de toute façon, mais on les entend pas.
Oui, pour l'essentiel, probablement la quasi-totalité, ces oiseaux étaient déjà présents au printemps dernier. Et si individuellement ils ne l'étaient pas, ils ont été remplacés par des congénères, donc des oiseaux appartenant aux mêmes espèces. Donc ces oiseaux étaient présents et aujourd'hui, eh bien, on les entend un peu mieux, puisqu'encore une fois, c'est le grand silence le long des rues, des boulevards.
Et vous me disiez qu'il y avait des études qui montraient que de toute façon, les oiseaux s'adaptent à l'ambiance sonore dans laquelle ils vivent.
Alors, les oiseaux s'adaptent à ce qu'on va appeler la pollution sonore, comme ils s'adaptent éventuellement à la pollution lumineuse. Alors, pour ce qui est de la pollution sonore, il y a des études originales qui ont réussi à montrer qu'à proximité des aéroports, eh bien, des oiseaux très communs, comme des pinsons, des mésanges, des troglodytes, ont plutôt tendance à placer la phase d'activité vocale la plus importante très très tôt le matin, ou alors très tard en fin de journée. Et comme par hasard, ça correspond au moment de la baisse relative, mais en tout cas de la baisse du trafic aérien. Il tire profit de la diminution du volume sonore émis par les humains et leurs machines pour chanter et ainsi se faire reconnaître de leurs semblables, en se rappelant d'ailleurs que le chant est avant tout une manifestation de défense de territoire, ou en tout cas d'affirmation de limite de territoire à l'intention du mâle concurrent qui chante à quelques dizaines de mètres ou à quelques centaines de mètres en fonction des espèces.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même, avec cette réduction drastique de l'activité humaine, des espèces qui oseraient venir plus près, qui ne conviendraient pas habituellement ?
Très honnêtement, là, je suis incapable de vous le dire, parce que déjà, chez moi et autour de chez moi, je n'ai pas pu le mesurer. Et comme les naturalistes, même avec Internet, sont quand même communiquent, j'allais dire, un peu moins, on n'a pas tellement d'infos là-dessus. En revanche, pour ce qui est des mammifères, il suffit encore une fois d'aller sur Internet, prioritairement, ou de lire la presse pour y trouver des témoignages filmés qui montrent qu'effectivement, un certain nombre d'espèces de mammifères, y compris en France, montrent un peu plus d'habileté à venir fréquenter le milieu urbain, y compris en pleine journée.
Et peut-être que, comme il y a beaucoup moins de circulation automobile, il va y avoir pas mal de hérissons ou même d'amphibiens qui vont être épargnés.
Alors, si on va par là, on peut se dire que c'est une période bénie pour la faune. Alors, on peut prendre cet exemple. Les hérissons peuvent sortir de leur léthargie, sachant que ça a été sans doute une léthargie très relative, puisque l'hiver a été particulièrement clément. Mais moins de circulation, ça se traduira évidemment par moins de hérissons écrasés, moins de blaireaux ou de renards percutés par des voitures. Il faut aussi avoir bien en tête, alors que c'est quelque chose de très frustrant pour nous, l'interdiction d'aller sur les plages et sur les grèves se traduit par un moment de plaisir, en tout cas de non-dérangement pour des milliers d'oiseaux migrateurs qui sont en train de faire des haltes migratoires pour s'alimenter le long de ces plages ou de ces grèves, des oiseaux qui sont partis d'Afrique, qui remontent l'Europe et qui vont filer vers le nord de l'Europe pour aller se reproduire. Je pense en particulier à un petit bécasseau qui s'appelle le bécasseau Sanderling. Ici, puisque je vous réponds là depuis le pays Bigoudin, le long de l'immense plage de la baie d'Audierne, à cette époque-ci de l'année, il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de bécasseaux Sanderling qui sont en train de s'alimenter activement parce qu'ils vont avoir une très très longue route à faire pour rejoindre le Groenland où ils vont aller se reproduire. Il n'y a qu'au Groenland où ce magnifique bécasseau se reproduit. Or, en période normale, enfin normale pour les humains, ces mêmes bécasseaux, en particulier le samedi, le dimanche, les jours ensoleillés, etc., sont systématiquement dérangés par des promeneurs qui arpentent cette très très longue plage, et la majorité de ces promeneurs n'imaginent pas, d'ailleurs, ils ne le font pas exprès, ils n'imaginent pas qu'en chassant, qu'en repoussant constamment ces bécasseaux qui sont en pleine phase d'alimentation, eh bien ils provoquent chez ces oiseaux des dépenses d'énergie inutiles et surtout une perte de temps qui va se traduire par moins d'aliments consommés et donc moins d'énergie pour ensuite entreprendre le vol migratoire vers l'étape suivante, quelque part en Angleterre ou en Irlande, avant, après, de faire le saut vers l'Islande, etc. etc.
Alors, s'ils écoutent Radio Évasion, ils doivent le savoir parce qu'on a fait un sujet spécifique sur les oiseaux des plages, justement. Et sinon, alors pour les naturalistes de Bretagne vivante en particulier, cette période pourrait être une formidable occasion d'observation, mais là, du coup, vous ne pouvez pas, je suppose, mettre en place des protocoles.
Oui, exactement. Je crois qu'on est... les naturalistes, hommes et femmes, jeunes ou vieux, de Bretagne vivante ou d'associations similaires, sont effectivement très très frustrés. Donc je pense qu'on fait à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire soit on observe depuis la fenêtre de son appartement, soit dans son jardin, si on a la chance d'avoir un jardin plus ou moins vaste, et ce qui permet d'ailleurs... De redécouvrir des espèces qu'on va dire un peu banales, qu'on a tellement l'habitude de voir, mais comme on n'a rien d'autre à faire en termes d'observation naturaliste, eh bien on passe plus de temps à observer le comportement de l'accenteur mouchet, du troglodyte, de la mésange bleue, et on peut faire un tas de relevés très très intéressants. Et si on est naturaliste débutant, très très débutant, eh bien on peut s'amuser à faire quelques photos avec son smartphone ou avec un appareil photo et puis éventuellement les adresser à Bretagne Vivante. On a un outil qui s'appelle le forum des naturalistes qui permet éventuellement d'adresser une photo de papillon dont on ne connaît pas le nom ou d'un oiseau dont on ne connaît pas le nom, et normalement quelqu'un répondra à cette personne pour dire ben voilà, il s'agit de tel papillon ou de tel oiseau.
En plus, il se trouve que comme c'est le printemps, il y a des opérations de sciences participatives nationales qui redémarrent, qui sont anciennes, hein, qui sont proposées, je crois, par le Muséum d'Histoire Naturelle, enfin, notamment oui. Des observations de papillons, d'escargots, je crois, de bourdons.
Escargots, bourdons, papillons, oui.
Donc là, ben, comment est-ce qu'on peut, par exemple, observer les bourdons dans son jardin est-ce que vous avez une petite méthodologie à nous préconiser?
Alors, C'est pour ça que je faisais référence à cet outil de Bretagne vivante qui s'appelle le Forum des naturalistes, parce que commencer à observer et à identifier des bourdons, là on rentre dans le formidable monde des insectes, où les espèces sont extrêmement nombreuses. Et donc là, je suggère pour quelqu'un de débutant de passer soit par le crayon et le dessin, soit par la photo, justement pour essayer d'obtenir l'identification précise par le biais de quelqu'un un peu plus connaisseur. Mais ça peut être aussi, voilà, je parle du dessin, ça peut être une excellente occasion de se lancer dans le croquis naturaliste, notamment pour, voilà, je pense aux premiers papillons qui commencent à circuler, les pierrides. On va pas tarder à voir les aurores. Il y a des pans du jour qui ont réussi à passer l'hiver et qui circulent dans les jardins. Des vulcains également qui ont la dernière génération de l'été qui a réussi à passer l'hiver en se mettant bien à l'abri. Donc éventuellement, ça peut être une occupation sympathique de prendre ses crayons de couleur et d'essayer de croquer cet être vivant et après éventuellement de feuilleter un guide. Un livre d'identification, ou alors, encore une fois, d'adresser l'œuvre sur le forum des naturalistes ou en téléphonant à quelqu'un que l'on connaît dans le coin qui est un peu plus connaisseur. C'est une occasion à saisir pour essayer d'élargir un peu son champ de connaissances, quoi, de capacité à nommer le vivant, quoi. C'est quelque chose que les Français, globalement, maîtrisent pourrait maîtriser davantage, quoi. Voilà, on a vu un papillon, il y a une baleine qui s'est échouée, c'est une chauve-souris. Mais quelle chauve-souris, quel papillon, le mammifère marin qui est échoué là, mais c'est un dauphin. Oui, mais lequel? On peut voir 5 ou 6 espèces en Bretagne. Il y en a 2 plus abondantes, mais il y a des échouages qui permettent de réaliser que des espèces moins banales circulent. Nommer le vivant, nommer les choses, c'est passionnant, quoi.
Et ça évitera peut-être aussi d'en avoir peur éventuellement. Enfin, là, je pensais à la cohabitation pas toujours facile entre certains humains et les animaux, les insectes en particulier d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est, sachant qu'on est dans une période où il y a de nouveau des peurs qui ont l'air de circuler. Donc, alors déjà, il y a quelque chose qu'on va rappeler, c'est que les maladies provoquées par des germes pathogènes, que ce soit des virus, des coronavirus, certaines bactéries, etc., ça circule dans les deux sens. Nous sommes infectés, nous humains, par des agents pathogènes, parce qu'on a été trop au contact avec telle ou telle espèce animale, ne serait-ce qu'en la consommant, par exemple. Je pense à l'animal sauvage, hein. Apparemment, c'est quand même l'une des hypothèses aussi, encore une fois, pour l'apparition de ce coronavirus, et parce qu'on a consommé une espèce animale hôte de ce virus. Mais en sens inverse, les humains peuvent aussi provoquer des dégâts considérables en se rapprochant de trop d'espèces animales et en leur transmettant des agents pathogènes que ces espèces ne connaissaient pas. Ça, c'est quelque chose qui a été très très popularisé par les biologistes qui étudient les singes, par exemple les grands singes, que l'on peut contaminer par des virus que l'homme peut porter et que ces grands singes ne connaissent pas dans leur milieu naturel. Donc ça circule dans les deux sens. Voilà, c'est